Guillaume, par ennui, lassitude, recommence à écrire. Puis, petit à petit, il y prend goût, il est pris au jeu. Ses poèmes, ses écrits sont plus mûrs, plus adultes, plus beaux. Il lui fait lire au salon, près d'un feu de cheminée. Galien lui dit « J'aime ce que tu écris. Tu as un style élégant, léger. J'aimerais écrire comme toi, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que j'ai essayé, c'est sombre, noir. Et puis, l'écriture est lourde. » Guillaume lui dit « C'est peut-être à cause du monde où tu vis. Toutes ces choses que vous faites chez toi, ces expériences, ce n'est pas drôle, et sans le souffre, le noir, le secret, c'est pas lumineux ton monde, c'est le contraire. C'est pour cela que tu ne peux pas écrire comme ça. Mais si tu changeais de vie, tu le pourrais peut-être. » Galien lui dit « Alors ta vie est lumineuse, tu es heureux ici. » Guillaume lui dit « C'est la nature qui me rend comme ça. Mais bien sûr, je ne suis pas aussi heureux. J'aimerais être plus libre, revoir ma mère, vivre chez moi. » Galien lui dit « Mais ici, tu es chez toi. » « Merci, mais c'est faux. Je suis chez toi. Et d'ailleurs, j'ai toujours été chez quelqu'un. Il faudrait que je travaille, que je gagne ma vie pour être libre. » Galien lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire comme travail ?» Je ne sais pas. » Galien lui dit « Continue à écrire, c'est aussi un métier. » Guillaume lui dit « Pour gagner sa vie, avec ça, ce n'est pas facile, très peu de gens le peuvent. » Galien lui dit « Mais moi, je suis là pour t'aider, je connais pas mal d'éditeurs, et n'oublie pas que tout ce qui vient de la France est recherché dans le monde entier. » Le français est passé le premier en exportation artistique devant les Américains. Alors c'est le moment d'en profiter. » Guillaume lui dit « Tu t'en occupes, l'on prendra mes écrits parce que c'est toi pour te faire plaisir. Toi l'homme le plus riche du monde. » Galien lui dit « Qu'est-ce qui t'a dit que j'étais l'homme le plus riche du monde? C'est ridicule. » Guillaume lui dit « C'est la vérité. Tout le monde le sait, sauf moi. Et pour cause, ça ne sert à rien, puisque je ne peux me servir de mon argent comme je le veux. » Guillaume lui demande « Pourquoi ? » « Parce qu'un président de groupe est très surveillé, il est pour ainsi dire prisonnier de son groupe. » Guillaume lui dit « Et tu voulais m'aider ?» Galien lui dit « Oui, parce que je le peux. Sauf que moi, je ne veux pas. Je veux être reconnu par mes écrits. Et parce que, et non, parce que je suis l'ami ou l'ex-petit ami d'un homme très riche. Je ne suis pas un gigolo. » Galien lui dit « Mais je ne te traite pas en gigolo. Je te respecte trop pour ça. Et si je t'aide, c'est parce que j'aime ce que tu fais. Autrement, je ne le ferais pas. » Guillaume se lève et lui dit « Peut-être, toi, mais pour les autres, ce sera pas la même chose. » Il sort de la pièce. En claquant la porte, Galien va le rejoindre. Il le retrouve dans le couloir. Va vers lui. Mais Guillaume a ouvert la porte pour aller dans le bar. Il va le rejoindre. Galien le suit. La nuit est douce. Il rattrape Guillaume et lui dit « n'allons pas nous disputer pour ça. Nous ferons comme tu voudras. Guillaume lui dit, je vais être plus libre. J'en ai assez de cette prison. Galien lui dit, c'est pas une prison, tu es mon invité. Pour ce qui est de ta liberté, comme tu dis, ton indépendance, plutôt, nous verrons. Mais avant, je ferai venir le médecin pour voir si tu es complètement guéri. Guillaume lui dit, le médecin, il peut être maître de mèche avec toi. Galien ouvre ses épaules et lui dit, il n'a plus confiance en moi. Et il n'y a plus d'amitié entre nous. Guillaume lui répond, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Mais je veux être indépendant. Galien lui dit, avant, tu n'étais pas comme ça. Guillaume lui dit, je suis plus humaine et serai incapable de redevenir comme ce que j'étais. Ça me dégoûte. Je te demande pardon. Peut-être avons-nous été très heureux ensemble en faisant, mais maintenant c'est impossible. Mon accident m'a purifié de ce qui n'était pas vraiment à moi. Galien lui dit, je comprends. Que son homosexualité était due à un viol, donc à quelque chose en dehors de ce qu'il est réellement, quelque chose d'imposé. Son homosexualité lui a été imposée et l'a malgré lui tiré du plaisir. Maintenant, il a pu rejeter, grâce à son choc, son homosexualité qui n'était pas vraiment de lui, mais imposée. Parce qu'il a vécu. Galien sait tout ça. Il n'en veut pas à Guillaume de ne plus l'aimer comme avant. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est qu'il soit heureux, même si lui le perd en partie et que cette partie est très importante pour lui. Celui qui souffre, qui est puni, pour ainsi dire, c'est lui. Guillaume lui demande, tu es fâché? Non, pas du tout. C'est normal ce que tu me demandes. Ça prouve que tu es guéri. Je vais mettre les choses en marche. Se remettre à marcher. Galien dit, c'est une bonne idée de marcher comme ça dans la nuit avant d'aller dormir. Guillaume lui dit, il ne faut pas que tu aies de la peine. Je sais que ce que tu fais pour moi, c'est beaucoup. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ce n'est rien. Et il continue à marcher. Guillaume lui demande, tu souffres que nous ne soyons plus comme avant? Galien lui dit, je te mentirais si je te disais que je ne souffre pas. Mais je dois me faire à cette idée. Guillaume lui demande, nous étions très unis, oui, assez, nous faisions des choses, oui, bien sûr, et j'aimais ça, oui, mais n'y pensons plus, puisque tu n'aimes plus, et toi, moi rien, tu as un autre, une autre personne, non, et puis ça ne me dit rien pour le moment. Je me sentirais trop triste si je me faisais avec un autre. J'ai besoin de me sentir avec toi, près de toi. Galien, lorsqu'il va voir Philippe, il se sent plus calme avec lui. Il n'y a pas de problème. Il a l'impression de revenir en arrière au temps où il vivait à Lyon. Il a dit à Philippe qu'il avait joué aux pauvres. Ça m'a servi à rien. Je n'ai aidé personne et je n'ai rien appris. Je croyais que c'était en vivant dans un milieu que l'on pouvait faire quelque chose. Mais je n'y crois plus. C'est pas en jouant à la comédie. Philippe lui demande : et que vas-tu faire ? Je ne sais pas, parce que pour moi c'est plus compliqué que pour les autres. J'ai beaucoup de responsabilités et je ne peux pas faire ce que je veux. Donc tu peux rien faire? Pour l'immédiat, oui, je ne peux rien faire. Mais plus tard, avec toutes ces découvertes, les gens vont obligatoirement être plus heureux. Philippe lui dit, plus on découvre, moins on en sait et moins on est heureux. Plus la science est forte, plus les gens sont malheureux. Et plus il y en a qui meurent de faim. Galien lui dit, les choses vont plus lentement à se transformer dans la société, mais elles se transforment. Demain n'est jamais comme hier. Une jeune fille, grande, mince, cheveux blonds, visage très sympathique, est habillée d'une robe beige en coton. Elle doit avoir dans les 22 ans. Elle marche d'un beau pas dans la rue, qui est une rue presque déserte, une rue qui mène au lycée Henri IV. Mademoiselle, mademoiselle! Elle se retourne et voit un jeune homme qui semble avoir son âge, visage très sympathique, avec de magnifiques yeux bleus. Il est en costume gris clair, porte une mallette en cuir marron. Une de ces mallettes comme on en portait avant. Le jeune homme arrive vers elle et lui dit, vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne vois pas. Ce jeune homme qui était assis à côté de vous, appelé Yel. Elle le regarde bien et lui dit, oh, oui, je vous reconnais un peu maintenant. Moi, je vous ai tout de suite reconnu. Le hasard fait bien les choses, non? Elle lui dit, oui, surtout si on l'aide un peu. Et lui demande, comment cela? Elle lui dit, oui. Moi, j'étais bien tranquillement à marcher et tout d'un coup, je me trouve ici avec vous. Parce que c'est vendredi après-midi et que celui à qui nous devons tout a hâte de finir sa semaine. Il me met avec vous, comme ça, pour remplir un vide. Je ne comprends pas. La jeune fille sourit et lui dit, je m'excuse, je me comporte comme une enfant. Je m'imagine des choses. Par exemple, qu'un écrivain écrit un roman et que tout d'un coup, il ne sait plus quoi dire. Et pourtant, il faut bien qu'il continue son histoire. Alors, il me prend et me met dans son histoire. Et peut-être qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire de moi. Et pour le moment, il m'a mise à votre côté. Mais je me demande quel rôle vous allez jouer. Le jeune homme lui dit, le rôle du chevalier servant qui va vous raccompagner chez vous. Vous habitez loin? Non, pas trop. Juste l'immeuble qui se trouve derrière le lycée Henri IV et l'entrée de la piscine. Le jeune homme lui dit, c'était pas bien loin. Elle lui dit, j'ai pas besoin d'être accompagné, vous voyez. Le jeune homme lui dit, « Ça, c'est vous qui le dites. Il se passe tellement de choses étranges dans cette ville qu'une jeune fille que vous doit être accompagnée le soir. » Elle lui dit, « Peut-être que la mauvaise rencontre, c'est vous. » « Non, je plaisantais. » Il lui dit, « Je l'espère, quoi qu'on ne sait jamais. » « Et que faites-vous la nuit dehors ?» Elle lui répond, « J'ai tout simplement passé la soirée chez une amie. Et vous ?»«
Moi, c'est pas la même chose. Je suis médecin. »
Elle le regarde bien. « Vous êtes bien jeune pour être médecin. » Il lui dit, « C'est-à-dire que je parais plus jeune que je le suis. J'ai changé de corps. Mon cerveau a été mis dans un autre corps. »
Elle lui dit, « Je ne vous crois pas.
Pour moi, vous êtes aussi imaginatif que moi.
Nous voyons essayer d'écrire un roman ensemble. »
Il lui dit, « Ce sera un roman assez étrange. » Elle lui dit, « Oui, mais j'aime l'étrangeté. » Il lui dit, « Eh bien, avec moi, vous serez servi. » Elle lui demande, « Alors vous êtes médecin ? Et vous venez d'une auscultation ?»«
Oui, une jeune fille qui a le corps fragile. »
Les jeunes filles ont toujours le corps fragile et ils se mettent en route.
Elle lui dit, « Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Vous habitez loin ?»«
Oui, très loin. En réalité, je change toujours de domicile. » Elle lui dit, « Ça doit pas être facile pour vos malades.
Mais c'est moi qui vais à eux.
Et vous, que faites-vous ?»«
Moi, je suis institutrice, dans une rue un peu plus haut. » »«
Vous vivez seul ?»«
Ouh, voilà bien des questions. » »«
Oui, je vis seul, mais je suis sage. »
« J'y compte bien. »
Elle lui dit, « Mais cela ne vous regarde pas. »
Il lui dit, « Ce serait si triste, une jeune fille si bien comme vous, qui ne serait pas sage. »
Après quelques minutes de marche, elle s'arrête devant l'entrée d'un vieil immeuble de 4 étages, tout simple, avec en dessus une petite épicerie.
Elle lui dit, « Je suis arrivée, merci monsieur. »
Il lui dit, « Je peux vous raccompagner jusqu'à votre porte ?
C'est celle-là ?
Non, celle de votre appartement.
Pas la peine, monsieur.
Oh, que si !
Allez, ne faites pas l'enfant. »
Elle se dit qu'il essaye un peu, mais comment s'en débarrasser lorsqu'on est seul dans la nuit.
Elle lui dit, vous êtes gentil, mais je peux très bien rentrer seul.
Il lui dit, c'est dangereux, on peut faire de mauvaises rencontres.
Dans l'allée,
elle soupire et entre. Il la suit.
L'allée est petite, étroite, comme les vieilles allées que vous avez déjà connues au cours de nos différentes histoires. Elle monte jusqu'au dernier. Elle lui dit, « Voyez, je ne risque rien. Je suis arrivée. » Elle va vers une porte et se tourne vers lui. « Voilà, je suis arrivée. Merci, » il lui dit. « Vous me laissez pas entrer pour boire un verre ?» Il lui dit. « Non, je connais la musique. » « Mais non, celle-là, vous ne la connaissez pas. Vous allez être surprise. »« Non, merci. Je suis fatiguée. Je peux vous donner des remontants, si vous le voulez. » « J'ai ce qu'il me faut. Au revoir et merci, monsieur. »
Elle se retourne et ouvre la porte. Elle entre. Il est derrière elle. Il veut la suivre à l'intérieur. Elle se retourne, se tire de la main. « Non, merci. » Elle veut fermer la porte. Il a mis le pied pour l'empêcher qu'elle se ferme. « Enlevez votre pied, je vous prie. » Et enlève le pied. « Bien, je m'en vais. Bonne nuit. » Elle ferme la porte à clé.
Elle entend qu'il descend les escaliers. Elle se sent plus rassurée. Le lendemain, en sortant de l'école, à midi, il vient vers elle avec un bouquet de roses. Il est 8 ans. Elle est gênée à cause des élèves qui les entourent. Il lui dit « Tenez, c'est pour vous. » Elle prend le bouquet. « Merci, mais il ne fallait pas. C'est pour me faire pardonner pour hier au soir. Vous savez, je ne suis pas très expérimentée avec les femmes. » Elle lui dit « Ce n'est rien. » Il lui demande « Vous déjeunez quelque part ?»« Au petit restaurant qui n'est pas bien loin. » Il lui dit « Si vous voulez, je peux vous inviter. Je connais un très bon restaurant qui font des moules aux frites. » Après, tu lui as donné un bouquet au milieu des enfants. Comment le refuser ? Et peut-être cela le mettra en colère. « Oui, je veux bien. » Mais je paye ma part, vous m'avez déjà offert le bouquet. C'est déjà beaucoup. Bien, allons-y. Et ils y vont. Le restaurant n'est pas bien loin. Il n'est pas très grand. Il se trouve dans une rue un peu plus loin. Ils y rentrent. Il y a un peu de monde. La salle est décorée de filets de pêcheurs et de coquillages. Ils arrivent à trouver une table à 2 places. La serveuse, une femme de 40 ans, brune, châtain, robe blanche, va vers eux. L'homme lui dit « Moules frites et une salade verte, plus une tarte aux pommes pour 2 personnes. » Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? La jeune fille lui dit : mais c'est moi qui paye. Je ne sais même pas. Je ne connais même pas votre nom. Je suis avec vous et je ne connais rien de vous. Moi non plus, je m'appelle David et vous ? Moi, Marie. La serveuse revient avec la salade et il commence à manger. Il lui dit : c'est bon et c'est rare à notre époque. Elle lui dit : oui. Et c'est si difficile de trouver à manger quelque chose de correct. Et lui demande : d'habitude, vous mangez chez vous ? Oui, surtout le soir. Vous quittez tard votre travail ? Non, à 18h. Vous restez chez vous ? Vous rentrez chez vous de suite ? La plupart du temps, oui, sauf lorsque j'ai des choses à faire. Mais c'est assez rare. Quand on vit seul, les courses sont rapides. Oui, bien sûr. Même pas de chien ? Non, surtout pas. J'aime trop les animaux pour les forcer à vivre dans un appartement en ville. Pauvre bête, rester enfermé toute la journée. Et puis ça coûte cher. Il faut les nourrir, les soigner. Et vous ? Il lui dit : non. Et puis, je n'ai pas d'animaux. Je les mangerai. Oh, quelle horreur ! Mais vous vivez seul ? Oui. Je ne peux pas faire autrement avec la vie que je mène. C'est assez spécial, vous savez, rechercher des clients, opérations, ce qui est long et toujours d'un endroit à un autre. Et il manque. N'ai pas de cabinet ? Non, pour ce que je fais, je vais voir les gens. Mais vous les opérez quelque part ? Il lui dit : oui, bien sûr. Mais des fois, on opère dans des conditions un peu spéciales. Ça fait longtemps que vous exercez ? Oh oui, peut-être bien une vingtaine d'années. C'était la première fois, ma femme en... Elle sourit et lui dit : vous me moquez de moi ? Vous semblez à peine avoir 30 ans, et encore, et vous voulez me faire croire que vous opérez depuis une vingtaine d'années ? Il lui dit : vous savez, je parais beaucoup plus jeune que je ne le suis, c'est à cause d'une opération. On vous a opéré du cœur ? Non, du cerveau, pour me mettre dans un corps tout neuf, tout jeune. Le jeune homme qui venait de mourir, son cerveau était déjà en décomposition. Vous savez, ça se détériore facilement, vite, ça devient gélatineux. Et vous, arrêtez, vous allez me faire vomir. Elle regarde sa montre et lui dit : je dois me dépêcher, c'est bientôt l'heure. Pour mes cours. Ils se lèvent tous deux, vont vers la banque. Elle demande la note, s'il vous plaît. La caissière, une vieille femme maigre, la lui tend. David lui dit : laissez, je vais payer. Elle lui dit : mais non, nous avons décidé que je payais. On m'avait déjà offert un très beau bouquet. Il lui dit : non, j'y tiens beaucoup. Laissez-moi payer ma part. Bien, d'accord. Une fois qu'ils aient payé... Il se retrouve dehors. Il la raccompagne jusqu'à son école. Arrivé, elle lui dit : bien, au revoir et encore merci. Au revoir. Elle entre dans son école avec des bouquets de fleurs. Le soir, à 18h, elle entre dans son allée avec le bouquet à la main. Arrivée à sa porte, elle se trouve nez à nez avec David, qui a le sourire aux lèvres et une petite mallette en cuir marron à l'ancienne. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» il lui dit. « J'aimerais pouvoir vous montrer ce que je sais faire. Vous êtes bien gentil, mais je ne peux pas vous recevoir ce soir. Oh, ce sera très rapide. » Elle le trouve mignon et a de si jolis yeux. On dira un enfant. Et puis, elle a le bouquet à la main. Elle soupire et lui dit « Eh bien, montrez-les-moi, si ça vous fait tant plaisir. » Il lui dit « Je ne peux pas vous le montrer ici, ce n'est pas possible. Mais qu'avez-vous donc à me montrer? Comment je travaille? Je vais finir par croire que vous êtes représentant de commerce et non chirurgien. « Vous faites ce cinéma à toutes vos futures clientes ?» il lui dit en souriant. « Il le faut bien. »
Elle ouvre la porte de son appartement. « Entrez !» Il entre. « Mais ne restez pas longtemps, parce que j'ai du travail à faire. J'ai des copies à corriger et puis j'ai des compositions trimestrielles. Faites pas attention au désordre. J'ai l'habitude. Petit couloir. Ouvre une porte. Entrez. C'est la salle à manger. Jean 1930.
Elle lui dit, j'habite dans l'appartement de ma grand-mère. J'ai pas changé les meubles. Asseyez-vous, je vais me mettre à l'aise.
Il va s'asseoir sur une chaise à table. Et elle le quitte.
La table a un petit napperon et dessus une soupière. Il touche le plateau de la table et voit que c'est du bon bois plein.
Elle revient.
Elle est en robe beige. Il lui dit, « Je vois, c'est que vous avez une très jolie table. » Elle lui dit, « Oui, c'est d'époque, et à cette époque, l'on faisait encore des choses en bois plein. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez me faire voir? Vous vendez quoi ?»
Il se lève, met la sacoche sur la table,
et lui dit, « Je vous l'ai déjà dit, je fais des opérations. » Et mes opérations, c'est des opérations à corps ouvert. Mais moi, je change entièrement le corps et j'en mets un autre. Je vais vous montrer.
Il ouvre la mallette et en sort un chiffon tout rouge, en boule, qui dépose sur la table et il ouvre le chiffon. Elle voit un corps.
Mais qu'est-ce que c'est cette chose horrible? C'est votre corps, ma chérie. J'aime pas du tout ces plaisanteries. Enlevez-moi tout de suite cette chose de ma table et partez. Je suis venu exprès vous apporter votre nouveau corps, mais tout de même pas me laisser partir comme ça. Non. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai pris le corps d'une jeune fille de votre école pour vous, rien que pour vous.
Elle lui dit furieuse, « Cela suffit, arrêtez vos plaisanteries, j'ai autre chose à faire. »
Il lui dit, « Moi aussi j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres clients, figurez-vous. Il faut que je sois parti d'ici 2 heures, et ça ne va pas être facile de faire tout ça en moins de 2 heures, tout en laissant le plus propre possible, parce que je suis une personne sérieuse, je ne laisse pas les choses traîner, moi. »
Elle soupire et lui dit, «
Allez, oup, dehors, et enlevez-moi cette saleté de la table. Cette saleté, c'est votre corps. Vous avez raison, il faut laisser la table libre pour vous opérer. Il prend le corps et le met sur une chaise. Elle s'avance vers lui furieuse. Il la pousse. Attendez, je vais préparer la table. Il prend la soupière et le napperon qu'il va déposer sur le buffet. Ouvre son sac à fond et en sort une toile cirée. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour ne pas dégueulasser la table. On dit que les femmes sont bêtes de poser des questions pareilles. Elle lui dit, cela suffit. Et lui... Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.